compagnie de Radio Occitanie et de la poésie. Bonsoir, les poètes. Une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Henri Méchonnic disait, c'est un poème de lui, « La vie rime avec la vie. Nous sommes tous des rimes vivantes qui cherchent à finir leurs phrases. » Ce soir, nous allons avoir la joie de recevoir Brigitte Maillard, qui vient de faire paraître l'au-delà du monde. Mais avant de rejoindre notre invité, je voudrais simplement faire une annonce que j'aurais dû faire bien avant, mais bon, le calendrier en a décidé ainsi. Il s'agit d'un livre conjoint aux éditions Rhubarbe de Margot Ohayon et de Michel Host, qui s'appelle « L'arbre et le béton, de la nature des choses de la nature ». C'est un dialogue. Donc, entre Margot Ohayon, poète qui habite dans le Lot, et Michel Host, que nous avons eu le plaisir souvent d'avoir à cette antenne, et qui a eu, entre autres, le prix Goncourt en 1976. Alors, une femme, un homme, s'écrivent et partagent leurs souvenirs, goût et crainte au sujet de la nature, celle qui disparaît sous les assauts du béton et du progrès autoproclamé. Très vite, on comprend qu'autre chose est en jeu. Ces deux-là, dont Margot Ohayon et Michel Host, se cherchent, se provoquent, piquent et s'esquivent, sous-entendent et digressent, tendant leur filet de paysages réels en représentation picturale ou évocation littéraire. Leur correspondance prend alors l'allure d'une danse de séduction ou d'un duel à fleurs mouchetées. C'est que la nature est vaste et réserve bien des surprises, de Vipère en couleuvre et de Manet à Cranach, l'ancien, sans oublier Gustave Courbet. Quand bien même chacun sait qu'à la fin, c'est elle, dans la nature, qui gagne, car c'est aussi cela, la nature des choses. Voilà, c'est un très beau livre, donc de Margot Ohayon et de Michel Host, aux éditions La Rhubarbe, un livre donc qui a plus de 100 pages et qui vous coûtera 12 euros. Voilà, je voulais simplement le signaler ce soir pour pouvoir également qu'il figure ce livre sur le compte rendu de l'émission qui sera fait. Voilà, L'arbre et le béton de Margot Ohayon et Michel Host. Brigitte Maillard, bonsoir.
Bonsoir Christian Saint-Paul et merci pour votre invitation.
Eh bien, c'est nous qui nous remercions d'être avec nous ce soir. C'est une joie d'être avec vous. Merci. Brigitte Maillard, nous avons eu l'occasion donc de parler souvent de vous. Pour vos publications, je vais les rappeler, Vivant Soleil à la librairie Galerie Racine. Une évidente beauté qui a d'abord paru à Atlantica et puis qui a ensuite paru à Monde en poésie, La simple évidence de la beauté,
oui.
Monde de poésie, des éditions dont vous occupez, dont nous parlerons, et puis À l'éveil du jour, hein, également Monde en poésie, dont nous avons parlé ici à ce micro, et maintenant vous revenez donc à la librairie Galerie Racine, édition parisienne,
oui.
Pour publier L'au-delà du monde,
oui.
Qui vient donc de paraître. Alors, nous allons d'abord parler un petit peu de votre engagement, avant de parler de L'au-delà du monde et de la spécificité quand même de ce recueil. On va revenir un petit peu en arrière avec vos premiers textes. Donc, c'était le premier, je pense, c'était Soleil. Vivant Soleil.
Oui. Le premier, c'était La simple évidence de la beauté.
D'accord. Voilà. Chez Atlantica, oui. Là, c'est la première
Atlantica,
édition.
Atlantica, oui.
Oui, voilà.
Ouais. Que d'accord. J'ai choisi de rééditer après, donc, dans cette nouvelle maison
tout
d'édition.
Tout à fait. Ouais. Fait. Et voilà. Alors, donc, le premier, d'ailleurs, le titre, c'est, il y a comme une espèce de, chez vous, donc dans cette poésie qui est une poésie de là dans la simple évidence de la beauté, une poésie vraiment de célébration, il y a une espèce de fascination un petit peu pour la vie et ce que la vie peut offrir quand même de d'exceptionnel et de ce qui se rattache quand même à ce qu'on appelle la beauté, qui est pour vous une simple évidence.
Oui, c'est vrai, c'est en fait c'est un hymne à la vie, je me rends compte maintenant, ces écrits à chaque fois. C'est dû à mon expérience en fait de vie, puisque c'est une poésie qui émerge vraiment, enfin que je cherche à laisser émerger des profondeurs, et donc qui est due à cet arrêt en fait, cette fracture en fait dans une vie tout à fait normale dont on avait parlé, qui est la rencontre avec la maladie, et qui finalement donc dans cette face à ce mur en fait a déclenché ce désir profond de la vie, de sa connaissance, et cet hymne en fait en permanence que je me sens le besoin de faire vivre quoi.
Michonne, que je citais tout à l'heure,
oui.
Dit le poème est une invention de langage qui transforme la vie. Je crois que cette formule, vous pouvez totalement la faire vôtre.
Oui, hein? Tout à fait. Je trouve que la parole, en fait, est un lieu de renaissance.
Oui.
Et en ce sens, quand on la découvre, en fait, puisqu'elle est, elle nous constitue, c'est elle qui fait notre humanité, en fait. Mais quand on la laisse venir, quand on la laisse parler, quand on cherche un autre langage que celui auquel on est habitué tous les jours, qui est le langage de la communication, des informations, etc., là, on est face à quelque chose de l'ordre du merveilleux, hein, de la découverte d'une autre langue. Ouais. Et c'est à partir d'elle et avec elle que l'on peut renaître d'une certaine façon à la vie, quoi, prendre conscience de cette... Enfin, pour moi, ça a été dans cette mesure-là où la poésie se révèle finalement de plus en plus comme un passage vers cet inconnu, vers cette vie, quoi, et sa beauté, en fait.
Pour revenir toujours à Michonne qui dit « Je passerai ma vie à ressembler à ma voix ». J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous faites.
Hein? Oui, oui, c'est vrai, ce sont des pensées tout à fait... tout à fait juste, où il y a cette adéquation de plus en plus entre ma vie et ce que j'en dis, et je pense que c'est le fait de s'habituer à descendre en fait dans cette dans ces profondeurs et puis dans cette intériorité qui ramène une parole, j'avais peut-être déjà eu l'occasion de vous dire, mais qui est pas, qu'on comprend pas tout de suite, qui est toujours en avant de nous en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe à chaque fois. C'est-à-dire quand pour ce recueil là à venir et pour les autres, ce sont comme des petits fragments en fait qui remontent à chaque fois, et ensuite il s'agit de les placer, de les organiser, mais il y a quelquefois des vers, des mots, des choses que je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas tout de suite, et il me faut plusieurs mois pour les comprendre, ensuite pour les mettre en recueil, et alors après pour les dire. Ça peut mettre encore un peu plus de temps, parce que comme on est vraiment là dans l'intime, c'est un peu compliqué parfois.
Alors écoutez, c'est extraordinaire ce que vous dites, parce que vraiment, alors pour revenir, j'insiste, mais pour revenir sur Michonne qui dit à propos, c'est dans les dédicaces proverbées où il dit ça.
Ouais.
Il dit, on dirait que le poème ne connaît plus que nous ne connaissons le poème.
Oui, c'est vrai.
C'est lui qui nous fait plus que nous le faisons.
Mais
c'est,
totalement.
C'est exactement ce que vous venez de dire.
Et c'est cette liberté-là, tout à fait nouvelle, et qui est à décrypter, et qui fait que j'ai du mal, moi, à m'asseoir, par exemple, à la table, en me disant « je vais faire un poème, je n'y arrive pas, quoi. »
Oui.
Mais la dernière fois, j'écoutais une petite vidéo d'un Africain qui est décédé aujourd'hui, un homme du Congo, ce pays, justement, là où je suis née, qui s'appelle Sonny Labou-Tansi. Et c'est une autre jeune femme poète, Imasango, qui me l'a fait connaître, qui nous l'a fait connaître au travers des réseaux, et qui expliquait que pour lui, la poésie est si intime qu'en fait, il la garde pour lui. Pour lui, il ne peut pas la mettre en recueil. Par contre, il peut la placer ou la déplacer à l'intérieur de ses romans. Et la façon dont il exprimait en fait ça, je me suis dit, mais c'est vraiment, c'était d'une simplicité forte, parce que, voilà, c'est cet intime qui, en tous les cas, que je trouve intéressant, quoi.
Alors, Imasango, nous l'avons bien connue ici. Nous avons eu le plaisir de réaliser une émission avec elle.
Ah oui, oui.
Elle est venue dans mon studio. Elle a été publiée par Bruno Doucet, je crois, à l'époque.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. C'est une très belle poésie.
Ah oui, tout à fait. Et alors, par contre, vous nous dites que vous êtes né au Congo. On n'a pas beaucoup parlé de vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre vie, de votre parcours?
Un parcours, disons, classique, avec une naissance au Congo, quelques années passées là-bas et un retour en France avec l'adaptation qui doit s'en suivre. Mais en fait, j'étais très jeune, hein, j'avais 2 ans, donc je ne m'en souviens pas du tout de cette période-là. Mais en fait, je pense qu'elle est quand même en moi en permanence.
Oui. Oui.
Et puis donc, bon voilà, une éducation tout à fait traditionnelle, dans un milieu plutôt bourgeois, avec un père polytechnicien. Voilà, c'était un peu un monde à la française. Et puis ensuite, je suis partie vers des études d'assistante sociale, tout en faisant un travail de comédienne, parce que j'étais vraiment désireuse de comprendre, et je l'ai toujours d'ailleurs, ce que c'est que la création, et comment ça pouvait se produire à l'intérieur de moi, quoi, donc d'un individu. Et donc je n'ai eu de cesse que de chercher en fait ce chemin-là, et c'est passé par la comédie, et ensuite le soutien et l'aide aux autres, la littérature, l'enfance maltraitée aussi, donc pour laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années, et puis jusqu'à cette fracture, donc tout à fait personnelle, donc de maladie dans les années 2000, et qui ont permis justement d'entamer tout ce nouveau processus d'écoute de soi et d'essayer de comprendre vraiment la vie face à ce mur qui est une prochaine destruction, en fait, ce qu'on appelle la mort, voilà, à laquelle on est tous, on sera tous confrontés, quoi. Mais qui nous donne, en fait, toute la richesse de la réflexion. Je pense que ça, c'est très important. C'est ce face avec la mort, ce face à nu, en fait, qui nous permet à certains moments, de lâcher prise sur tellement de choses, et d'y aller pour mieux comprendre, pour mieux toucher la vie, en fait.
Alors, on va en parler de ça avec votre nouveau recueil. Mais
oui.
Auparavant, je crois que vous êtes aussi très impliqué dans... Vous habitez Quimper.
Oui, oui.
Et vous êtes très impliqué quand même dans la ville.
Oui, dans les actions,
dans
en
les
fait.
Actions, oui.
Ouais, dans les actions en poésie, puisque, effectivement...
La Bretagne, c'est important pour vous?
Pardon?
La Bretagne.
La Bretagne. Oui. Ah oui, la Bretagne pour moi est importante parce que je ne suis pas du tout de cette région-là,
oui,
mais j'y suis venue là depuis quelques années et entre les paysages et l'esprit en fait qui règne, j'avoue que sur cette terre en fibre naturelle, moi je me sens vraiment très très bien et puis être près de la mer, enfin près des éléments. C'est fondamental. Et ici, en Bretagne, il y a une écoute, en fait, de la poésie, comme vous pouvez sans doute le vivre aussi en Occitanie, hein. Une écoute de la poésie qui est très précieuse, hein. Et qui fait qu'on peut y travailler, finalement, on peut y rencontrer, on peut y animer des choses. Et voilà, ce qui m'a permis de créer sur la médiathèque de Quimper des séances, des pauses poétiques, pour parler de la poésie, de travailler avec l'équipe des poètes de Quimper au rendez-vous de Max, et puis de commencer à mettre en place et de coordonner avec un collectif du pays Bigoudin un prochain salon dans une ville qui est proche de là où j'habite, donc qui est à Pont-l'Abbé, et qui sera qui est un salon en fait de la lecture et de l'écriture.
Oui. Pont-l'Abbé, c'est là où étaient les peintres, hein?
Pardon.
C'est là où étaient les peintres, Pont-l'Abbé.
Pont-Aven,
oui,
voilà.
Pardon.
Pont-l'Abbé, c'est une ville qui est la capitale en fait du pays.
Oui. Donc une implication quand même dans.
Oui, locale. Ça me paraît important d'essayer de transmettre
et
partager en fait ce qu'on a découvert.
Nos auditeurs peuvent découvrir ça aussi sur vos sites. Vous pouvez les rappeler.
Oui. Sur mon site mondeenpoésie.net ou brigittemaya.net, on trouve effectivement des articles sur ce chemin. Et puis dernièrement, donc une nouvelle rubrique sur l'agence Bretagne Presse, justement pour que le poème apprenne, entre guillemets, à prendre place dans l'info. Et là, donc je remercie...
Ça, c'est très bien, oui.
Monsieur Argouache qui dirige en fait cette agence Bretagne Presse, qui a accepté que toutes les semaines un poème puisse venir se présenter à ses lecteurs sans commentaire, hein, avec juste une référence vers l'auteur. Mais comme ça, ça crée en fait une dynamique régulière. Et puis c'est important que le poème prenne place.
Alors pour nos auditeurs, nous rappelons que nous avons mis ces références sur notre site en page d'accueil, les-poètes.fr. Voilà. Brigitte de Maillard, je vais vous demander maintenant de bien vouloir nous lire vos poèmes. Vous allez choisir, peut-être avant l'au-delà du monde, est-ce que vous pouvez choisir des poèmes des livres plus anciens, des livres antérieurs?
Ah oui, donc pour la simple évidence de la beauté.
Oui, très bien.
Donc la simple évidence de la beauté, en fait, c'est donc une expérience et une rencontre avec la beauté, justement, en Bretagne, sur les plages d'Audierne. Donc la beauté à l'air libre. La tête sur le rivage, je regarde passer la mer. Elle s'efface sur le sable, sa beauté danse sur la grève. Le feu conduit la ligne de beauté au champ des mers. Je pénètre dans l'inconnu, c'est brillant comme la nuit, fort comme le rêve. Seuls mes pas guident le monde. La joyeuse troupe du rêve s'avance, mais quand allez-vous nous émerveiller? Buvons, buvons, s'écrie le raccourci. Fait-on, fait-on, clame son innocence. Au paradis, ni loi, ni règle. C'est sans nous que la vie se fait. Victoire, où sont nos rêves? En quelle vallée? En quelle histoire? Allez, dansons. Où sont nos rêves? Dans quel décor? Sur quel support? Voilà, c'était un premier extrait de La simple évidence de la beauté.
On pourrait continuer avec À l'éveil du jour.
Oui.
Peut-être un extrait.
Alors, tout de suite.
Peut-être, si vous le permettez, page 97, où vous parlez de l'expérience.
97, oui, j'y suis, voilà.
Voilà, jour après jour.
Ah oui, d'accord. Voilà. Jour après jour, j'ai vécu dans l'expérience et pris conscience de notre nature profonde. Au fil de cette odyssée, je retrouve le sacré de la vie, un sacré bien vivant. Au-delà des dieux. Le cœur a repris sa place, la respiration me tient lieu de vie, et le corps de terre. Le langage devient un paysage qui, par effet de miroir, nous transmet un autre temps, un devenir, un possible, une espérance, où le rêve et le réel ne s'opposent plus. Une langue est venue à ma rencontre, elle m'a tirée vers l'inconnu, m'a tenue en haleine des nuits durant, avec le désir, l'amour, la mort, la souffrance, jusqu'à ce que je rencontre le principe fondamental de ma vie, dirait Tagore. Tour à tour légère, suave, ferme, diseuse de bonne aventure, délirante, belle, philosophe, énigmatique, rieuse, fraîche, désinvolte, populaire, biscornue, mais toujours aimante. Une langue riche qui n'a cessé de faire des allers-retours entre le concret et l'indicible à s'y perdre. Ça, la force de poésie. Elle invente un espace de dialogue où se crée notre histoire. C'est une découverte. Dans ce monde où le langage de communication domine, la langue est sortie d'elle-même, enivrée. Et nous avons œuvré ensemble au présent. Je sais aujourd'hui qu'elle est plus que moi, plus que toi et moi réunis, plus que le monde lui-même. Elle est à elle seule ce territoire qu'elle crée. C'est le miroir de l'en-dedans. Et là, sa vie brillonne si on la laisse venir. Son désir nous entraînait toujours plus loin. Je crois qu'elle m'a accompagnée vers ma spiritualité sans Dieu, fait ressentir la dimension lyrique et épique de la vie, aider à comprendre cette étrangeté qui nous habite.
Voilà, merci. Je tenais à ce que vous lisiez ça, parce que je crois que là, on a les clés quand même de votre démarche, de votre posture. Alors, nous allons parler maintenant, bien sûr, de votre dernier né.
Ah oui.
C'est-à-dire, alors, c'est édition librairie Galerie Racine à Paris.
Voilà, Alain Breton.
Alain Breton, donc ouais. Un très beau livre qui s'appelle « L'au-delà du monde ». Alors, il y a une photo de couverture à partir de l'œuvre originale de Éloi Robert, donc c'est qui a disparu en 1949. C'est tête de jeune Bigouden. Et c'est la collection du musée départemental breton à Quimper. J'ai vu j'ai visité donc ce musée, donc j'ai trouvé ça très 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 bien que vous ayez fait ce montage.
Ouais.
C'est à la fois très original et en même temps, on retrouve tout à fait cette imprégnation quand même bretonne. Alors,
oui.
Si vous voulez bien. Pour parler de ce livre, il faudrait, à mon sens, au début, entendre un peu les premiers poèmes. Alors, on va vous écouter dans les premiers poèmes de L'au-delà du monde, et après, nous continuerons, si vous le voulez bien, notre entretien.
D'accord.
On vous écoute.
Au-delà du monde, il y a quelque chose de grave et d'inattendu dans la vie. Il y a un lieu dans le monde, certains diraient une utopie, où il n'y a pas. C'est un au-delà du monde, un fruit au cœur de l'arbre. Nous avons le vent pour chanter nos rêves, des cendres dans nos histoires à la grotte profonde. Nous avons le ciel pour éclairer la mer, la peau de nos cœurs pour unique soutien. Saisir la vie au bord de l'univers, ce voyage ne fait que commencer. La vie nous y rejoint sans l'accord des rêves. Un air inconnu, une intuition libérée. Là où il n'y a pas de forme, de son, de parfum, de goût, de toucher ni d'éléments, dit le sutra du cœur. Un autre monde se dévoile, avec le temps, se dégage la réalité des représentations illusoires. La lutte est souvent rude contre la présence extravagante du monde. Et c'est un renversement complet qui nous attend. Une formidable respiration. L'au-delà du monde est une source de fraîcheur, un deuxième souffle, un secret inattendu. Je te touche du bout des doigts à la vie. J'explore le monde. Il arrive si bas que son infini m'entraîne au-delà, au cœur de la matière. Éteins la lumière. J'attends le monde, il ne vient pas. Écoute le pas de la lune. Le pas, rien que pour ça. Mais ne veux-tu pas porter le soir? Danser au bel amour, j'aimerais tant que tu te souviennes. Pour que naisse le jour, tu verras la terre étrangère, à un détail près, celui de ton absence. Tu crois qu'on peut y aller? Je ne sais pas. Allez, marchons, disent les arbres. La voie est libre. Ne plus vivre la vie, mais la vie devenir. Dans le bruit creusé par les feuilles à la sortie des abbesses, je vois venir la douleur, le sang, les lèvres disjointes. Il y eut un peu trop d'horreur pour que le bien s'y fasse. Donne-moi ta main. De cette grâce familière, ne veux-tu pas tenir le monde ? Jusqu'à plus soif, jusqu'à plus rien. Ne veux-tu pas entendre vibrer les étoiles, regarder la traversée des désirs? Au-delà du monde, au-delà des nations, se reprendre dans le souffle. Et s'unir, se réunir de la terre au ciel, de l'animal à la joie. Voilà donc les premiers mots en fait de ce livret.
L'au-delà du monde.
L'au-delà du monde.
Alors, il y a une définition peut-être de l'au-delà du monde qui est donnée dans le... dans le premier texte.
Oui.
Hein, j'essaie de le reprendre. Voilà. L'au-delà du monde, il y a quelque chose de grave et d'inattendu dans la vie.
Mm-hmm.
Il y a un lieu dans le monde, certains diraient une utopie, où il n'y a pas. Donc ça,
oui.
C'est négatif. Où il n'y a pas. C'est
oui.
Un au-delà du monde. Un fruit au cœur de l'arbre.
Mm-hmm.
Donc, à la fois, vous dites « il n'y a pas », et puis vous dites « un fruit au cœur de l'arbre
mm-hmm. ».
Or, le fruit, c'est ce qui donne...
Ce qu'il y a.
Ce qu'il y a, hein ?
Ah oui.
Oui.
Oui, c'est... l'au-delà du monde, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à définir. Ça peut être un cri qui dit « mais regardez, c'est beau », tout simplement. Mais en fait, l'au-delà du monde, c'est quelque chose qui est à l'opposé même de l'au-delà, puisqu'il est en nous. Donc, il est tourné vers la vie. C'est tout le retournement, en fait, dans lequel il nous emmène. Et, en fait, j'ai pas écrit un récit de science-fiction, on pourrait dire, au-delà du monde, etc. Et je voudrais surtout pas entraîner le lecteur et m'entraîner moi-même dans une certaine idéalité, en fait. Hein. C'est l'au-delà, c'est l'au-d'ici, en fait. C'est ce qui est là, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on perçoit, ce qui vient dans une fracture, ce qui vient dans une brisure, ce quelque chose qui nous dit qu'est-ce que l'existence, est-ce que c'est justement cet indicible. C'est plein de choses en fait, c'est aussi douter de l'existence de notre monde et c'est un l'au-delà, un lot d'ici qui questionne en fait notre réalité. De tous les jours, quoi. Je pense qu'il est important, en fait, c'est comme ça que je l'ai vécu dans ce chemin, qu'à un moment donné, le monde s'efface un peu, quoi. C'est pourquoi c'est éteint la lumière, c'est que le monde s'efface pour que quelque chose d'autre apparaisse, mais quelque chose qui est d'ici. Ça, c'est pas autrement que cela, en fait. C'est comme disait Éluard, comme je le rappelle à la fin, c'est il y a un autre monde. Mais il est dans celui-ci.
Oui.
Vous voyez, c'est la liberté, c'est dormir au pied des oliviers, c'est réouvrir les horizons, les lendemains, les lointains. Voilà, c'est juste le fruit d'une expérience, en fait, que j'essaye de traduire, en fait, dans ce recueil, quoi.
Alors, ce que vous dites me semble, moi, très important, parce que il faut lever l'ambiguïté, hein.
Oui.
L'au-delà, c'est pas un au-delà une fois que la vie est finie.
Ah non.
Voilà. Hein, donc ça, vous avez cité Paul Éluard, hein, qui dit
oui.
Il y a un autre monde, mais
oui.
Il est dans celui-ci.
Dans celui-ci.
Il est dans celui-ci.
Voilà. Oui.
Voilà. Et moi, je définirais un petit peu votre au-delà par cette formule de Saint-Exupéry. Hein, c'est ce que l'on voit non pas par les yeux, mais par le cœur aussi.
Voilà.
Hein,
tout
ce que
à
l'on,
fait.
Ce que l'on l'intuition,
oui.
On rejoindrait Méchonique aussi, avec sa prophétie, qui dit que le poète n'est poète qu'à partir du moment où il est prophétique.
Oui.
Et être prophétique, c'est pas dire l'avenir, c'est avoir l'intuition de ce qu'est véritablement ce qu'est l'essence des choses et ce que, évidemment, elles peuvent induire. Hein.
C'est ce je te touche du bout des doigts, la vie, en fait.
Oui.
C'est ce toucher de l'essence, comme vous le rappelez justement. C'est tout à fait ça.
Alors vous dites, juste à la fin, qu'est-ce que le monde, sans moi, existe-t-il ? Quel est cet au-delà du monde ? Le monde est-il un autre ? Y aurait-il un paysage derrière le paysage ? Cet au-delà du monde est-il notre rencontre avec un vide lumineux ? Alors là, on retrouve l'idée du départ, c'est-à-dire, vous dites, il n'y a pas. C'est, et moi, ça me fait penser aussi également au vide de la, comment dirais-je, de la mystique orientale aussi.
Voilà, tout à fait. En fait, là, j'ai repris des éléments du Sutra du Cœur, ouais. Qui est un texte bouddhique très court, qui est parmi les plus connus. C'est celui qu'on on psalmodie quotidiennement dans les temples zen au Japon, et en France aussi certainement. Et c'est un petit texte vraiment, donc pour lequel il y a eu des traductions, mais qui est vraiment... qui dit justement ça, cette vacuité en fait, dans laquelle on vit. Je peux vous citer juste un petit extrait là que j'ai sous les yeux, mais c'est parce qu'il y a plusieurs traductions, et là c'est dans une traduction de Christian Richard, parce qu'elle est peut-être plus proche de nous, et par exemple il dit... la vacuité ne diffère pas de la forme ne diffère pas de la vacuité, tout ce qui est forme est vacuité, tout ce qui est vacuité est forme, il en est de même des sensations, des perceptions, d'évolution et de la conscience, et poursuit en disant il n'y a pas d'ignorance, pas d'extinction de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive à, deux points, il n'y a pas de vieillissement et de mort, pas d'extinction du vieillissement et de la mort, il n'y a pas de souffrance, pas d'origine, pas de cessation, pas de chemin, il n'y a pas de connaissance, pas d'accomplissement, et pas de non-accomplissement. Voilà, c'était juste un petit extrait, mais j'invite les auditeurs à découvrir ce sutra du cœur qui est magnifique en fait dans sa simplicité, et qui se termine en disant allez au-delà, allez complètement au-delà, au quel éveil, bon, la traduction dit acclamons-le tous, et ceci termine le cœur de la sagesse parfaite. Bon, faut voir qu'on est dans un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre, hein, bien sûr, au niveau de la littérature ni de l'écriture, mais ni même de la pensée, mais ce sont des littératures qui nous ouvrent aussi profondément et dans lesquelles on trouve un écho. Et je me souviens que ce « il n'y a pas », je l'avais peut-être même dit dans un « je ne me souviens plus », mais c'est, je l'avais ressenti lors d'une nuit, en fait, où je m'étais retrouvée vraiment dans cette intuition profonde que je me retrouvais avec des mots, mais il n'y avait plus rien, quoi. Tout ne tenait plus que par des mots. Et ça crée de drôles de sensations, hein, à l'intérieur du corps. Mais ce jour-là, c'était vraiment une nuit... il n'y avait plus que les mots qui tenaient quelque chose du monde, quoi. Il n'y avait plus que la nuit, il n'y avait plus que le vide, il n'y avait plus que les mots. Et moi, j'étais toute seule avec ça. Donc, et je me suis dit, mais en fait, on est tout seul avec ce qui n'existe pas. Et là, tout à coup, ça m'avait vraiment créé un choc, quoi. Parce que... c'est comme si une autre réalité se faisait jour, mais dans la nuit elle-même. Voilà, moi c'était des petites expériences en fait personnelles qui surviennent à des moments et puis qui font écho des années plus tard.
Alors cette philosophie orientale est quand même assez différente de nous qui sommes malgré tout des latins. Hein.
Oui, oui.
Et je trouve que c'est très très intéressant, surtout la façon dont vous avez traduit ça dans la langue, par le langage. Par le langage. Est-ce que vous pratiquez la méditation ?
Je pratique la relaxation, mais je pratique la méditation libre, c'est-à-dire sans aucune attache religieuse ou quelle qu'elle soit.
Oui.
Voilà, c'est simplement à force de travail dans toutes ces années, on arrive à... C'est une forme de yoga, en fait, je dirais peut-être plus un yoga méditatif. Hein. Et voilà, puis après, on se rend compte que ces états de méditation, ils s'intègrent au quotidien. Et voilà, ils nous accompagnent.
Dans la
création aussi. Un ressenti de la vacuité. Oui, pardon.
Et dans la création aussi, ça...
dans les créations,
oui.
Ben oui, ça aide forcément, puisque ça libère, en fait. Parce que... je me dis, le poète, son travail, enfin, moi, tel que je le ressens, c'est vraiment de descendre le plus possible, comme je vous disais au début, dans les profondeurs. Et pour aller dans les profondeurs, bon, il faut du souffle en même temps. Et en même temps, il faut pouvoir se laisser guider, en fait, par une intuition assez libre. Et le travail, en fait, de yoga, le travail de détente, le travail de respiration, le travail sur le souffle, aide beaucoup à ce que ce corps trouve cette liberté, en fait, et nous accompagne. Donc je pense que la parole la parole en ressort d'autant plus que le corps est d'accord, enfin, voilà, c'est quelque chose comme ça, est d'accord avec elle, quoi. Ils s'aident mutuellement, corps et parole. Et quand on dit, moi je m'étais dit à un moment donné le corps et le monde, mais je suis loin d'être seule à le dire, et fort heureusement, je le retrouve ce terme chez Adonis, j'ai retrouvé cela chez Jacques Gorma aussi, qui est un poète contemporain, que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est ces rapports en fait de la parole et du corps.
Alors si vous voulez bien, on va de nouveau vous écouter dans la lecture de l'au-delà du monde.
D'accord. Il est une autre clarté. La terre est bonne. Elle jaillit du silence pour connaître l'irréparable. Un souffle d'étoile à portée de nos gènes. Une soif d'ange. Où vas-tu? Où cours-tu au milieu de nulle part? De la cage de soie à la tarentelle, de la vie qui se libère, partout commence la nuit. Clandestine, étoilée de sueur. Avec un cri dans l'ordre de l'univers, un sourire qui va de pair avec la mort. Sous la braise, le chant de vie. Tout est secret, tout danse, scintille. La lumière au phrasé des jours. La réalité, un masque pour le devenir. Reprends ton cœur et on y va. Où? Nettoyer ta blessure au feu de la rivière. Ne brusque rien, le jour vient à ta rencontre. Tu me parles si bas. Faire l'étrange, faire ce qui reste de vie. Chaque pas dans la nuit s'avance au gré du jour. Aveugle chant de nuit, qui pourra te reconnaître? La vie, elle passe en toi sans illusion, comme une reine des prés. Voilà. C'est un nouvel extrait du recueil.
Et on voit bien que l'idée centrale, c'est la vie, hein.
Oui, c'est vrai.
C'est la vie.
Ouais. C'est l'interrogation. Oui,
oui. Oui, c'est l'interrogation sur cette à la fois la vacuité et la plénitude.
C'est
hein,
ça,
aussi,
oui.
Aussi, de la vie, hein.
Oui. Tout en ayant conscience, comme le dit Camus, c'est d'être un individu embarqué en haute mer, quoi. C'est que c'est quelque chose de formidablement mystérieux et secouant, hein, la vie.
Puis vous parlez de nettoyer la blessure aussi, quand même, ou nettoyer ta blessure au feu de la rivière.
Oui, nettoyer la blessure au feu de la rivière, c'est
originel.
En fait, c'est tout ce travail qu'on doit faire, parce que cette blessure, en fait, elle nous appartient à chacun.
Oui, c'est ça.
On en a des multiples, on en a à venir, on en a des patients, on en a aujourd'hui. Donc, c'est comment... voilà, si ça me refait penser que l'au-delà du monde, en fait, c'est aussi cette ouverture sur la fraîcheur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti, découvert, pour moi-même, en fait, c'est que quand on est... on touche à une certaine, on va pas dire vérité parce que c'est pas ça non plus, mais à quelque chose qui fait que cette extravagance du monde s'efface un peu finalement, et bien on trouve de la fraîcheur. Et c'est un indice, pour moi en tous les cas, qu'on touche quelque chose qui est un petit peu juste, quoi. C'est frais. Ce monde, en fait, l'au-delà du monde, ce l'au-d'ici du monde, est toute fraîcheur.
Il y a de la légèreté malgré tout, c'est ça.
Comment ?
Il y a de la légèreté.
Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Il y a de la légèreté et voilà, et c'est quelque chose de... Oui, et cette fraîcheur, c'est surtout cette atmosphère, en fait, qui me surprend, quoi. Et qui est un indice, en fait, de quelque chose qui vient de cette zone-là, en tous les cas.
Il y a l'expérience et les souvenirs. Hein.
Oui.
Aussi, par exemple, page 25, vous dites « revenir aux choses mêmes ».
Oui, oui. Hein.
Les oiseaux se souviennent, fleurs de soleil, Andalousie. Ils disent aux les âmes, parce que nous sommes étoiles.
Ouais.
Flammes vacillantes dans la nuit, chaque trait de lumière revient vers nous, en mille éclats de diamants.
C'est toujours émouvant, je trouve, quand on entend ses propres mots dits par l'autre, enfin. Là, par vous-même.
Et parce qu'il y a une autre sensibilité
oui,
aussi.
Voilà, hein? Ouais. Oui, voilà, on sent que, toujours. Justement, tout cet intime, en fait, oui. Bon, bah, ouf, il va vers l'autre, voilà. Oui. Dans...
Il est vécu par l'autre aussi.
Oui, voilà, c'est ça.
Il est vécu par l'autre.
Il est vécu par l'autre, oui, tout à fait juste.
Peut-être d'une façon différente, certainement même, puisque
oui,
par
oui,
définition, oui. L'intime est terriblement individuel et unique.
C'est
mais
ça,
en même
oui.
temps... S'il passe par cette forme d'art qu'on appelle la poésie, nécessairement, il est universel.
Voilà.
Il est universel. Et donc, sous une forme qui est peut-être une forme différente, l'émotion sera ressentie par le lecteur.
Mmh.
Et celui qui va de nouveau, le locuteur, celui qui va de nouveau lire ce poème, il va le lire avec son expérience.
C'est ça, voilà.
Et qui est différente de l'expérience de l'auteur. C'est peut-être ça la grosse différence entre la prose et la poésie. C'est-à-dire que la poésie a un sens qui n'est pas un sens limité.
Oui, mais c'est tout à fait juste. Elle ouvre, en fait. Elle ouvre vraiment la pensée, entre guillemets, du lecteur... Et je lisais dernièrement, c'est Jean-Yves Leloup qui disait que penser, finalement, c'est célébrer. Mmh. Et je trouve que cette pensée est à voyager parce qu'elle est tellement belle. Voilà, il y a ça aussi, quoi, dans ce mouvement de l'un vers l'autre, par les mots et par ce véhicule formidable qui est la poésie. Et je me dis, finalement, c'est pas anormal que la poésie ne trouve pas de lieu pour se poser.
Oui, tout à fait.
Elle est mouvement avant tout. Elle est liberté. Hein. Elle est liberté.
On va peut-être vous demander de continuer un peu de lecture.
Oui,
et
d'accord.
Après, si vous voulez bien, on reviendra sur la genèse de ces textes.
D'accord. Alors, tombe la pluie. Dans le désert de Gobi. Sur le chemin embaumé de roses, tombe, seul, face contre terre, là où le vent chasse la poussière. Pour aimer, tombe, avec la légèreté de l'oiseau. Monter ce chant de mémoire. Il respire en silence par la voix du mystère. Laisse monter ce chant de mémoire, drogué à l'absence, au souvenir de l'être. Respire sa douceur, le si lointain où chantent les sirènes. Laisse venir le chant des rives. Douleur profonde des retrouvailles, volonté discrète de se parer des jours. Je remonte, plus profond qu'en silence, plus trapu que l'ivresse, plus heureux que la mer, plus seul que l'espoir, plus audacieux que le vent. D'un simple rêve, je te salue, ô ma liberté. Une douce volupté, éclairante et lumineuse. Revenons au soleil, à la joie de l'éclair, au passé furtif du boulevard des rêves. Le sang du vent, la chair d'éternité, sont le levain de nos prières. Rien ne va sans toi, mon âme. tu m'appelles en secret de ton regard d'enfance. Voilà, un nouvel extrait de L'au-delà du monde.
Merci beaucoup. Alors, vous nous avez dit que, en définitive, il y aurait trois phases dans l'écriture de ces poèmes.
Oui.
Une première phase un petit peu de latence et de voir venir. Mm-hmm. Une deuxième phase un petit peu de prise de conscience de ce qui s'était passé. Et puis une troisième phase qui est la phase de rédaction proprement dite, mm-hmm. c'est-à-dire une phase de travail.
Une phase d'assemblage, presque.
D'assemblage, oui.
Ouais.
Est-ce que c'est vraiment ça? Ça se passe dans cet ordre-là?
Voilà, ça se passe dans cet ordre-là et suivant un temps qui peut être très long, très court, mais voilà, c'est pas... Enfin, voilà, la notion du temps, là, elle n'est pas précise, en fait. Hein. Mais sinon, c'est cet ordre-là, oui, bien sûr, ouais.
Alors, on trouve dans votre poésie, je pensais à Antoine Aimaz, par exemple.
Oui.
Une poésie qui est une poésie très économe.
Oui.
Économe des adjectifs, très, très resserrée, c'est du concentré.
Hein? Oui, oui.
Une concentration... mais qui n'est pas non plus cette concentration absolue, style
sèche,
voilà, ouais. Sèche avec ouais. loin de là, hein, loin de là. Ouais. Hein, c'est ce que réussit, il me semble, parfaitement Antoine Aimaz. Et j'ai trouvé que vous aussi, alors, il y a à la fois cette sobriété qui donne une intensité, qui prend de puissance ouais. par l'intensité, mais en même temps, quand même, ça coule. C'est fluide, comme vous disiez. Il y a une fluidité. Et ça, je crois que c'est le travail, quand même, de la langue. Il faut travailler la langue pour arriver à ça.
Oui, oui, oui. Ouais. Elle se travaille, en fait. Oui. Elle se travaille. Et, à force de l'écouter, elle se met en place. Mais il y a beaucoup d'intuition, en fait, hein, là-dedans. J'essaye de...
Oui,
ouais, je sais pas comment dire, mais d'être le moins dans le faire possible et le moins... Pas le moins dans l'abstrait, le moins dans l'intellectualisation ou des choses comme ça, quoi.
Oui, c'est-à-dire s'il n'y a pas l'émotion, s'il n'y a pas l'intuition du départ...
Voilà, ouais.
Ça marche pas, quoi.
Ça marche pas.
Oui. Okay. Mm-hmm. On va peut-être, peut-être une dernière question, c'est ce que vous pensez de la... De la poésie actuellement, c'est une vaste question, hein, mais bon, en quelques mots, de son impact. Est-ce que vous êtes satisfaite? Parce que je m'adresse là à la personne qui monte aussi des éditions de poésie.
Oui,
c'est pas facile, il faut vraiment avoir le feu sacré pour faire ça. Hein.
Mm-hmm.
D'ailleurs, ce sont généralement, il n'y a que les poètes qui montent bien des maisons d'édition
des
comme ça.
Maisons,
de poésie. Il faut vraiment être mm-hmm. grand passionné de poésie. Hein. Mm-hmm. Mais après, ça donne de grandes choses. Je pense à Guillaume Ismano, par exemple, des gens comme ça, hein, qui ont toutes ces grands poètes qui ont fait du Sion, Bruno Durocher, dont je parlais il y a peu de temps aussi, mm-hmm. hein, qui était un passionné de poésie,
mm-hmm.
et qui n'hésitait pas quand même à prendre des risques pour publier des gens, etc., dans un circuit qui est un circuit quand même tout à fait à part dans le circuit marchand de l'édition.
Tout à fait, oui. Oui, c'est pour ça que je prends mon temps en ce qui concerne cette partie de Monde en Poésie Édition. Je prends le temps de la construire tranquillement, que la ligne éditoriale se dégage petit à petit, sans exclure en fait. Là dernièrement, j'ai choisi avec cette maison d'édition d'éditer en fait l'intégralité des poèmes que nous avions reçus pour un concours. Le concours de l'an passé, justement, sur cette ville de Pont-l'Abbé dont je vous parlais la dernière fois, avec le collectif Les Plumes du Pan. Et on avait reçu donc un certain nombre de poèmes. Et là, j'ai voulu vraiment éditer l'intégralité, même si c'est quelque chose qui ne se fait pas, entre guillemets, parce que là, on retrouve, en fait, un, mélange entre les poètes primés et puis des poètes tout à fait nouveaux en fait dans leur écriture, mais je tenais absolument à ce que tout le monde se retrouve en fait dans un même recueil, puisque c'est ce que nous avions reçu, quoi. C'était les œuvres, hein, au sens de travail abouti, hein, œuvre bien sûr, quelque chose de fabriqué, de fait, que nous avons reçu. Et je pense que c'est important, justement, qu'il y ait ces, que des gens qui connaissent pas forcément la poésie, ben voilà, se retrouvent là et qu'ils n'écrivent pas toujours comme nous, on aurait envie que ça soit écrit ou, voilà, ça, ce sont des choses que j'ai aussi envie de faire avec cette maison et petit à petit de découvrir ou de permettre à des livres qui peuvent être en lien avec la Bretagne ou, voilà, devenir au jour, mais c'est au fur et à mesure, pas à pas, je dirais, parce que c'est, j'ai pas envie d'être emmenée non plus dans quelque chose un peu fou, parce que je crois que le monde de l'écriture, le monde des livres est devenu fou, quoi. C'est-à-dire, il y a trop d'écrits, on s'y repère de plus en plus mal, il y a du trop partout, pourquoi pas, hein, ça fait partie de la vie, cette...
C'est des mesures.
Voilà, mais je veux pas trop me laisser emmener là-dedans, parce que sinon c'est compliqué après. Et puis on a notre propre écriture aussi à gérer. Donc c'est difficile. Mais en tous les cas, c'est une expérience passionnante et que j'entends bien continuer.
Nous l'espérons bien. Alors, oui. Nous invitons donc les auditeurs à regarder ce site Le Monde en Poésie. Vous avez toutes les références sur notre site également,
les-poètes.fr.
Hein. Et puis, donc, Brigitte Maillard, L'Au-delà du Monde, à la librairie Galerie Racine à Paris. Donc, livre de poésie de 15 euros. Brigitte Maillard, merci beaucoup.
Bon, c'est moi qui vous remercie.
À bientôt. Bonne continuation.
Merci beaucoup.
À la prochaine fois. Claude et moi.
À très bientôt et merci.
Merci Brigitte. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.